L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business qui se poursuit. La rédaction de Zeronet.com tout à l'heure. Notre French Tech Tour, on ira du côté d'Aix-Marseille, pourvoyeur de start-up de la Smart City. Ce sera avec notre invité et puis Aurore Géraud. Et puis tout à l'heure, on retrouvera aussi le crash test d'Antoine Cyr. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sans aucun doute vous intéresser. On parle de plus en plus des robots. Mais quelle est la relation qu'on arrivera peut-être à créer avec un robot? Eh bien voilà, le jour où mon robot m'aimera, Lila.
C'est le titre du dernier ouvrage de Serge Tisseron. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Serge Tisseron, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous venez de publier Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle chez Albin Michel. C'est pas la première fois que vous vous exprimez sur l'impact du numérique sur nos psychés. Vous étiez notamment interrogé sur les métamorphoses de l'écran et leur impact sur les enfants, entre autres. Vous attaquez cette fois au sujet des robots, de notre rapport actuel et à venir avec ces objets. Devrions-nous dire bientôt sujet, à quelle nécessité, quelle interrogation répondant en fait l'écriture de ce livre?
Alors, comme vous venez de le dire, hein, ça fait des années que je travaille sur les objets numériques, j'ai travaillé sur les écrans, sur Internet, et je me suis évidemment aperçu, hein, comme beaucoup, que beaucoup de difficultés dans l'intégration d'Internet dans nos vies venaient du fait qu'on y était tombé sans aucune préparation. Il y a une dizaine d'années, je connaissais des parents qui disaient à leurs enfants, n'allez pas jouer dans la rue, c'est dangereux, allez plutôt surfer sur Internet. Et puis, il y a quelque chose qui est apparu qu'on appelle, vous savez, la cyberdépendance. Eh bien, j'ai écrit ce livre pour éviter qu'un jour, on risque d'avoir une robot-dépendance. Il vaut mieux anticiper les problèmes que courir derrière.
Alors, quelle est justement votre théorie là-dessus? Il y a des risques à ce qu'on s'accroche, à ce qu'on dépende de ces robots?
S'attacher,
c'est possible?
Oui, alors vous savez, l'être humain s'est toujours attaché à ses objets, hein, et il s'attache à ses animaux domestiques, aux objets qui lui sont proches. On a tous dans nos penderies des habits anciens qu'on jette pas, bien qu'on les mette plus, voilà, des vieux canapés qu'on garde, parce qu'on a des souvenirs qui sont attachés. Alors avec les robots, on va quand même franchir un degré, hein, de plus, dans la mesure où ces fameux robots, ils vont être dotés, comme vous l'avez évoqué, de ce que les chercheurs appellent l'empathie artificielle. Alors c'est quoi l'empathie artificielle? Ça va être la possibilité pour un robot de comprendre nos intonations, nos mimiques, pas seulement le sens de nos phrases, hein, mais aussi la manière dont nous les disons, la posture de notre corps. Un robot pourra voir si nous disons « j'ai faim » avec l'air déprimé, l'air en colère ou l'air curieux. Donc le robot sera capable de nous comprendre et il sera capable de nous répondre de la même manière avec des gestes, des attitudes, des mimiques adaptées. Bref, il sera un parfait ersatz d'être humain.
Donc on va s'attacher?
Donc on va s'attacher à eux, Et alors c'est là que vient un autre problème. C'est que, comme vous savez, les robots apparaissent comme une formidable opportunité pour relancer l'économie. Hein, voilà, un peu comme la voiture a permis de relancer l'économie dans les années d'après-guerre, 1950. Et donc du coup, le grand danger, c'est qu'évidemment, les fabricants de robots nous fabriquent des robots auxquels nous aurons envie de nous attacher, que nous pourrons même être tentés de prendre pour des êtres vivants. Donc c'est pas tellement les robots que je crains, hein, c'est toute cette logique économique qui fait que nous sommes encouragés à voir dans les robots des équivalents d'êtres vivants.
Et puis il y aura peut-être aussi des populations qui seront plus sensibles à ça.
Vous en parliez dans votre livre.
Oui, alors
on peut imaginer que voilà, les enfants
les
ou même
personnes âgées,
les personnes âgées qui se retrouvent seules parce que les enfants sont partis, etc. Aujourd'hui, ils se rattachent souvent à peut-être un petit animal de compagnie. On peut imaginer que le robot demain pourra leur tenir compagnie et qu'il y aura un vrai attachement, non?
Absolument. Avec en plus cette caractéristique qu'auront les robots, qu'on pourra les habiller sur mesure. C'est, il faut qu'on pense qu'on achètera un peu nos robots dans une quinzaine d'années comme on achète notre téléphone mobile aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le modèle de base.
Pour vous, c'est dans 15 ans à peu près?
Oui, mais même, bon, dans 15 ans généralisé, hein, mais déjà, il y a des robots NAO dans les foyers pour personnes âgées, les maisons de retraite, dans des écoles. Mais disons, les robots qu'on achètera, voilà, on ira dans un magasin, on achètera comme un téléphone mobile, puis on achètera des applis compagnie. Et puis, on pourra aussi emmener le robot, vous savez, dans ce qu'on appelle un Fab Lab, hein, voilà, une petite boutique dans mon quartier.
Le toiletteur pour robot.
Voilà, toiletteur, une boutique dans mon quartier qui fabrique qui a une imprimante 3D et qui peut fabriquer des prothèses de main,
accessoires.
Des visages, des accessoires. Et donc, mon robot pourra être habillé sur mesure, voilà. D'ailleurs, les personnes âgées tricotent déjà des vêtements pour leur robot dans les maisons de retraite. Mais on pourra faire mieux, on pourra habiller son robot à son goût, comme une créature fantastique, une elfe, Apollon, Aphrodite, si vous voulez, ou bien un enfant qui a quitté la maison et que les parents, dont les parents ont envie de garder l'effigie près d'eux. Ce sera un peu l'équivalent d'un tableau, ce sera un tableau animé, voilà, c'est une forme de super image, vous voyez. Pas seulement un super objet, pas seulement un ersatz d'être humain, mais une super image.
Ça fait peur, et pourtant.
Mais moi, je ne m'en inquiète pas. Ce dont je m'inquiète, c'est que on ne se soucie pas plus de créer dès aujourd'hui des balises législatives et des balises éducatives. Parce que le progrès scientifique est inévitable, hein. Voilà, les laboratoires travaillent, il y aura une attente du public. Mais il faut réfléchir dès aujourd'hui à des repères éducatifs et législatifs. Il ne faut pas attendre que les robots soient déjà là pour commencer à imaginer les meilleures manières de les gérer. Il faut anticiper.
Comment se positionne-t-on par rapport aux autres pays? Vous parliez tout à l'heure certaines maisons de retraite. On sait par exemple que les Japonais ont des années d'avance par rapport à nous. Ils adorent les robots, etc. On est comment, nous, par rapport
en retard, mais pas seulement par rapport au Japon. Les pays sont en train de se spécialiser. Alors l'Allemagne se spécialise en robotique industrielle. L'Italie du Nord s'occupe beaucoup de robotique de proximité. Mais le grand pays qui s'occupe de robotique qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire des robots humanoïdes, c'est évidemment le Japon. Et alors la France, là, est en train de prendre du retard. Et regardez quand même ce qui s'est passé avec Aldébaran. Aldébaran est un fleuron de l'informatique française.
Il a quitté la France il n'y a pas longtemps.
Il a été racheté par SoftBank et son patron...
qui est une banque japonaise.
SoftBank qui est donc un fabricant de téléphones mobiles japonais. Et aujourd'hui, le Piper est en expérimentation au Japon et pas en France. Alors que Piper a été fabriqué par Aldébaran, entreprise française. Donc voilà, on peut dire le gouvernement a laissé partir, hélas, Aldébaran, tout au moins une grande partie d'Aldébaran. Et donc voilà, il y a tout un travail à faire pour mettre la France sur les rails, pour qu'elle soit un pays capable de produire des robots selon les règles que nous leur fixerons.
Et pourquoi les Japonais sont-ils plus sensibles justement à tout ça? On se rappelle que, enfin, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, les Japonais adoraient les Tamagotchi déjà.
Oui, absolument.
Ils avaient vraiment des sentiments par rapport à les petits objets électroniques.
Et là,
on se rend compte que c'est la même chose avec les robots. Pourquoi culturellement les Japonais sont plus sensibles à ça?
Alors, il semble qu'il y ait deux traditions qui les amènent à cela. La première, c'est qu'il y a au Japon une tradition de l'automate beaucoup plus développée encore qu'en France et en Europe. En France, on a Vaucanson, le fameux automate canard, mais c'est assez exceptionnel. Au Japon, 17e, 18e siècle, énormément de fabrication d'automates et toute une main-d'œuvre hyper spécialisée dans des activités très fines. Et puis l'autre élément, c'est un élément religieux, hein, puisque dans la religion shintoïste, qui a quand même donné des traces profondes au Japon, même si tout le monde n'est pas shintoïste au Japon, eh bien tout ce qui est animé a une âme, ce qui fait que les premiers robots chiens introduits au Japon ont été enterrés comme des chiens vivants qui seraient morts. Voilà.
Le fameux chien robot de Sony, d'ailleurs.
Voilà. Le chien Aibo, le robot Aibo, Sony, qui était enterré. Alors, je ne pense pas qu'ils enterrent les robots domestiques, parce qu'en termes écologiques, ça serait une catastrophe.
C'est pas terrible. Voilà, il faudrait leur enlever les piles.
Voilà. Et pas seulement.
Il y a une typologie complète de robots. Vous avez le robot humanoïde, vous avez les robots qui ressemblent à des robots.
Oui.
Est-ce que vous pensez que pour s'attacher à ces robots, on va avoir besoin d'avoir face à nous des robots humanoïdes? Est-ce que une voix comme dans le cas du film Her de Spike Jonze, qui va mimer comme vous l'analysez très finement dans votre livre va suffire? Quelle est votre position par rapport à ça?
Alors pour s'attacher à un robot, c'est pas nécessaire qu'il soit humanoïde. Il y a un exemple célèbre, la Guerre des Étoiles, R2-D2, tout le monde de crack pour R2-D2. Hein. Si on l'avait près de nous, on serait prêt à lui prêter des intentions, des émotions, on ferait attention qu'il se fasse pas mal. Donc, un robot n'a pas besoin d'avoir une forme humanoïde pour qu'on le trouve sympathique, qu'on s'attache à lui. En revanche, si on veut qu'un robot soit capable de grimper sur une échelle pour changer une ampoule électrique, de me faire ma cuisine en utilisant mes casseroles traditionnelles, eh ben, il faut qu'il ait deux bras, deux jambes. Voilà. Et si en plus, j'ai envie de pouvoir lui dire tout ça sans quitter mon fauteuil parce que je peux pas me déplacer, il faut qu'il interagisse avec ma voix, avec ma mimique. Mmh. Donc, vous voyez, le robot humanoïde, en fait, n'est que le robot le mieux adapté pour remplacer l'humain. Mais en même temps, il faut bien comprendre que le robot humanoïde, il sera qu'un élément de l'ensemble de ce que on appelle les objets, c'est-à-dire des objets interconnectés. Et là encore, la guerre des étoiles est formidable parce que c'est, dès qu'il y a une machine à diriger, c'est R2-D2 qui s'en occupe. R2-D2 est l'interface entre l'homme et tous les objets interconnectés. Et il en sera de même pour nous, un robot humanoïde qui sera interconnecté avec tous les objets de la maison qui seront des objets connectés à Internet.
Bon, est-ce que vous imaginez des journalistes présentateurs robots qui pourraient être à notre place dans quelques années?
Alors, je dirais pas oui pour pas vous désespérer.
Non, mais allez-y, on est prêts. Avec Lila, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à entendre tout ce que vous avez à nous dire.
Il a déjà été montré, en tout cas, que des robots pouvaient écrire des articles de presse très très bien, je dirais pas mieux que des journalistes pour pas faire de peine à ceux qui nous écoutent, mais en tout cas de façon remarquablement rapide et efficace. Donc un robot doué de la parole un jour puisse tenir une émission de radio, c'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Bon, espérons que ça arrive pas tout de suite, hein, pour qu'on ait le temps quand même de se reconvertir, Lila.
Pour quel type de robot vous plaidoyez, Serge Tisseron? Est-ce que ça va être davantage des robots humanoïdes, des robots?
Alors il y a deux grandes traditions. Entre les deux, il y a un pays des robots humanoïdes, c'est le Japon, et il y a plus un pays des robots objets interconnectés, ce sont les États-Unis. Probablement en Europe, on est entre les deux, on aura à la fois des robots humanoïdes et beaucoup d'objets interconnectés. Alors moi, il faut bien comprendre que j'opte ni pour l'un ni pour l'autre. Dans les deux cas, c'est vrai que la forme d'attachement sera pas la même. En revanche, n'oublions pas que dans les deux cas, c'est quand même des objets qui capteront toutes nos données personnelles en temps réel. Hein. Ils auront des grands yeux ou des grandes oreilles ou ils n'en auront pas, mais les objets interconnectés, mais ils transmettront toutes nos activités à des tiers et on peut se demander comment vivrons-nous quand nous saurons que nous sommes surveillés en permanence.
Serge Tisseron, merci beaucoup.
Merci. Merci, c'est passionnant. Pour les auditeurs qui aimeraient approfondir le sujet, je les invite à lire votre ouvrage qui est paru chez Albin Michel et qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bon, pendant qu'on va réfléchir à notre conversion, on revient dans un instant. Hein. Lila Megrao pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Éric Le Bourlou dans une dizaine de minutes, rédacteur en chef du pôle actu de Zéronet.com. On s'intéressera au gros titre d'actualité high-tech de cette semaine que vous avez pu lire peut-être sur 01. Et puis juste après, ce sera le crash test d'Antoine. Mais dans l'immédiat, avec Aurore Giron, on va retrouver notre World Tour dans quelques minutes. Mais tout de suite, notre French Tech Tour, notre voyage dans notre beau pays. Direction sud-est, Aix-Marseille.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on est avec Céline Soulier, qui est directrice de l'incubateur Belle de Mai, qui est situé à Marseille. Céline, bonjour.
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 Alors, Marseille, donc c'est 7000 entreprises dans le numérique, c'est 40 000 salariés dans le numérique, c'est surtout une labellisation le 12 novembre 2014, donc dans le premier batch de labellisés. À la fin du mois, il y aura le forum Smart City Méditerranée et les Smart Cities Days. Donc, Smart City, un secteur prometteur pour Aix-Marseille.
Alors oui, effectivement, c'est un axe qui a été choisi de manière générale au niveau régional, à la fois par Aix et Marseille et la métropole Nice-Sofia. Smart City, c'est un sujet qui est traité à Marseille depuis près de 20 ans, avec un premier programme qui s'appelait Euroméditerranée, alors qui englobait pas forcément le numérique comme aujourd'hui, mais qui réfléchissait déjà à la place du citoyen au cœur de la ville, de l'entreprise au cœur de la ville, et faire en sorte que tout cela fonctionne ensemble. Pour nous, Smart City, ça englobe beaucoup de marchés, de technologies et d'usages, à la fois au service du citoyen, mais aussi au service des entreprises.
D'accord. Et alors, quels sont, vous pouvez constater quel type de start-up se développe, quels secteurs sont les plus porteurs, plutôt éducation.
Alors aujourd'hui, on voit quand même des secteurs comme le e-tourisme, le e-commerce qu'on peut intégrer effectivement dans la Smart Cities. Également la e-éducation qui est un secteur primordial pour la ville de Marseille, mais également le sans contact, tout ce qui est autour de la sécurité et également des big data. L'avenir sera aussi autour de tout ce qui est transport logistique. C'est quand même un bassin très important au niveau du transport et de logistique, à la fois sur la Méditerranée mais à l'international. Et également tout ce qui a trait au déplacement du citoyen sur son territoire.
Et alors, le citoyen, est-ce que il est beaucoup plus engagé du côté de Marseille qu'on peut le voir dans d'autres villes peut-être labellisées?
Alors, plus engagé que d'autres villes, ce serait quand même dur de le dire. J'ai jamais forcément testé. Aujourd'hui, en région PACA, on a mis en place différents programmes qui s'appellent notamment les PACA Labs, qui permettent aux entreprises d'être financées pour tester directement leurs produits ou leurs services auprès des citoyens et faire en sorte d'avoir des groupements de citoyens ou de collectivités qui vont pouvoir développer les usages avec les entreprises. En ce sens, ça montre que les citoyens sont quand même déjà impliqués autour de la French Tech. Après, les citoyens, c'est aussi nous, les salariés des structures accompagnant les créateurs d'entreprises, également tous les partenaires qui s'impliquent au-delà de leur propre emploi pour développer cette French Tech et les Smart Cities en général.
Donc plutôt des start-up qui sont dans l'usage même du citoyen, ou est-ce qu'on peut voir aussi des start-up plutôt qui s'adresseraient aux villes en matière d'analytics par exemple?
Alors on a effectivement des start-up qui vont directement proposer du service aux citoyens, soit par des nouvelles technologies. On a vu quand même arriver depuis un certain temps tout ce qui était technologie sans contact et qui nous aide au quotidien. Ce n'est pas que à Aix-Marseille, mais avec toutes ces cartes NFC qui nous permettent d'accéder aux transports en commun, par exemple. Derrière, il y a des start-up qui ont développé des services. Au niveau des villes, on a des services à la fois pour les associations. À l'incubateur, on vient de voir émerger une entreprise qui s'appelle Galou, qui propose un annuaire bien développé pour référencer toutes les associations des villes. Ils travaillent déjà avec les associations de la ville d'Aix et du territoire d'Aix. Donc, c'est des services qui permettent à la fois aux associations et aux villes de travailler ensemble. On a d'autres types de services qu'on a pu voir émerger à l'incubateur, comme des innovations d'usage pour la gestion des files d'attente. D'accord. Et la gestion également des flux de personnes. C'est une entreprise qui s'appelle Chromatic. Donc c'est quelque chose au service de la ville, mais également au service du citoyen, puisque on peut potentiellement perdre moins de temps. Voilà, c'est couplé, c'est pas uniquement pour les villes ou pour les citoyens.
Et concernant Marseille elle-même, vous parlez de NFC, on a vu qu'il y avait le Smart Contactless World. Je sais que Marseille voulait se présenter comme leader du sans contact dès 2010. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je crois qu'une start-up notamment s'était beaucoup fait remarquer, Think and Go NFC.
Oui, effectivement, c'est une entreprise que l'on a également accompagnée, qui est sur le territoire d'Aix-Marseille. Marseille a développé depuis longtemps cette technologie, également parce qu'il y a un tissu déjà existant d'entreprises de grosses PME qui ont travaillé sur le sujet. On a un pôle de compétitivité, solutions communicantes sécurisées qui traite également de ces technologies. C'était un petit peu normal qu'elle se positionne à la fois pour soutenir les entreprises existantes, il faut pas oublier le tissu de PME et de TI déjà présents sur le territoire, et pour faire émerger des entreprises comme Think and Go NFC qui ont présenté lors du dernier CES Las Vegas, notamment au ministre Macron, leur nouvelle télé connectée qui allie technologie NFC, usage. Alors aujourd'hui, c'est plutôt orienté pour le marché du retail, donc du commerce. Mais demain, ça pourrait évidemment apparaître dans les villes pour proposer aux usagers dans la ville des écrans qui ne sont plus uniquement connectés et qui proposent du contenu à jour régulièrement, mais aussi avec lesquels on peut interagir.
D'accord, très bien.
Grâce à des cartes, NFC, etc.
Très bien, ben merci beaucoup.
Merci,
on voit que
Céline
Marseille
Soulier
regorge d'innovation et d'initiatives. C'est très sympa, merci beaucoup. Et donc après notre French Tech Tour, notre World Tour maintenant, et on va s'intéresser à la France qui est l'Eldorado pour les entrepreneurs du Maghreb, Aurore Géraud.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes avec Aline Maillard. Aline, bonjour.
Bonjour Aura.
Qui est donc fondatrice de l'accélérateur marocain Blue House. Moi, je voulais parler un petit peu, avant de commencer, du French Tech Ticket qui a été annoncé par François Hollande en octobre 2014 et qui a été lancé en mai dernier, dont le but est d'attirer les startups étrangères. Là, on va parler un petit peu d'entrepreneurs maghrébins qui n'ont pas attendu, du coup, que ce French Tech Ticket apparaisse. Aline, vous avez fait un article récemment pour le site Wanda où vous êtes vous officiez en tant que responsable éditorial sur pourquoi ces entrepreneurs maghrébins se sont lancés en France. Alors qu'est-ce qui les pousse à se tourner vers la France?
Déjà, c'est vrai que les pays arabes, les pays africains, etc., la tentation est forte d'aller dans des pays qui sont plus développés parce qu'on y trouve de l'argent, des fonds plus facilement, parce qu'on y trouve de l'expertise, des gens, des accélérateurs, des incubateurs. On est à côté des grands partenaires, par exemple Google, Android, toutes les personnes qui vont être des clients, qui vont pouvoir vous aider, sont basées là-bas. Donc, c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec eux. Donc, ça fait plein. Et puis, une main-d'œuvre qui est qualifiée, etc. Ça, c'est plein de raisons qui font que les entrepreneurs de l'économie moins mature sont attirés vers des écosystèmes comme Londres, Paris, Berlin, etc. Et puis, dans le cas très particulier des Maghrébins, il y a aussi le fait de la proximité culturelle, puisque c'est effectivement... il y a beaucoup de Maghrébins qui ont les moyens, qui vont étudier en France, qui parlent français couramment, qui ont une culture française. Et donc, pour eux, ça vient un peu naturellement. Ils sont en train de faire leurs études, ils sont à HEC entrepreneurs, ils vont rencontrer des... de leur école de commerce, de leur école d'ingénieur. Et c'est comme ça que naissent les idées et qui décident de rester. Donc il y a un peu le double côté des gens qui veulent venir spécifiquement parce qu'ils vont trouver des conditions qu'ils n'ont pas chez eux. Et puis les personnes pour qui ça arrive parce qu'ils sont là. Et ils sont là, ils font leurs études en France, ils travaillent en France. Ils ont l'idée, ils trouvent la société et ils se lancent là-bas. Et ça permet effectivement de créer des emplois et de la valeur en France.
Et la France, c'est un marché test pour ce genre d'entrepreneur?
Dans quel sens?
C'est un marché test parce que plus de personnes, plus de technologies peut-être?
Alors, en règle générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu en fait, d'entrepreneurs qui veulent... qui se lancent à l'étranger pour revenir chez eux. Donc la grande majorité des entrepreneurs maghrébins qui sont basés en France, avec qui je suis rentrée en contact, pour eux, c'est une idée qu'ils vont développer pour et sur le marché français, avec peut-être l'ambition après d'aller développer à l'international, mais plutôt en Amérique ou en Europe. Il y a très peu de personnes qui se disent « je vais lancer en France et puis après je vais rentrer au Maghreb », par exemple.
D'accord. Et ils partent en France, c'est aussi pas simplement pour la qualité de la France, mais c'est aussi peut-être pour échapper à des difficultés peut-être légales ou de levée de fonds. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, c'est sûr qu'au Maroc, en Tunisie, les conditions, le cadre juridique et les fonds qui sont disponibles sont un petit peu plus compliqués à gérer qu'en France. Après... au contraire, qui, eux, ont choisi de rentrer de France pour montrer leur entreprise au Maghreb, sont tous d'accord sur le fait que rien n'est impossible. Être entrepreneur, c'est aimer prendre des risques, c'est aimer les challenges. Et donc, il n'y a rien vraiment qui va stopper un entrepreneur. Après, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un peu plus de débrouillardise pour lever des fonds au Maroc ou pour trouver la bonne structure juridique en Tunisie. Il va falloir peut-être aller voir des investisseurs étrangers ou réussir à créer une société en France et en Tunisie pour pouvoir gérer certains contrats, etc. Mais rien n'est impossible. En tout cas, il y a plein d'entrepreneurs qui au contraire se disent bon bah contrairement à mes copains, moi je vais rentrer dans mon pays et je vais développer quelque chose là-bas.
Merci beaucoup Aline. Aline Maillard,
merci, Aline Maillard,
responsable éditoriale de WAMDA France et fondatrice de l'accélérateur marocain Blue House. Vous restez avec nous, l'atelier numérique se poursuit dans un instant avec la rédaction de Zeronet.com et Eric Le Bourlou qui me rejoint dans ce studio. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine Cyr dans quelques minutes. Mais auparavant, direction la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi, il est à mes côtés et c'est Eric Le Bourlou que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour Eric.
Bonjour.
Rédacteur en chef du pôle actu de 01net. On va jeter un œil justement sur quelques-uns des titres d'actualité que vous avez sans doute lus sur Zeronet.com, le premier site d'actualité high-tech en France, rappelons-le. Et on va commencer par Free. Alors on savait que Free avait quelque chose dans les tuyaux depuis un certain temps et puis là c'est tombé en début de semaine avec un communiqué laconique. Voilà, Free en donne plus pour le même prix.
Exactement, Free a lancé une nouvelle offre pour son forfait mobile, hein, son forfait que tout le monde connaît maintenant, un forfait à 19,99 et donc en fait propose tout simplement de doper son fair use, sa quantité d'internet mobile par mois qui passe désormais à 50 gigas pour les abonnés à Free Mobile, qui est, alors que c'était auparavant de 20 gigas, ce qui était déjà énorme.
C'est déjà pas mal.
Ce qui était déjà énorme. Donc 50 gigas, donc Free s'est vanté d'avoir le plus gros fair use du marché, donc ce qui est effectivement, il n'y a pas pour l'instant d'offre vraiment équivalente chez la concurrence.
On sait pourquoi Free fait ça, Eric?
Alors, évidemment, ils avaient annoncé, hein, depuis qu'il y aurait une annonce dans le mobile à la rentrée, ils veulent essayer d'en faire plus que les autres parce que, aussi, il faut dire, il y a une petite subtilité dans ce nouveau forfait qui est assez étonnante. C'est que ces 50 gigas que vous ne les avez que sur le réseau de Free. Vous ne les avez pas si vous êtes en itinérance Orange. Donc, si vous êtes sur le réseau d'Orange, vous ne bénéficiez pas de ces 30 gigas supplémentaires qui vous sont autorisés par Free. Vous n'aurez alors que 20 gigas. Donc, en fait, Free fait ça aussi pour qu'on n'utilise plus son réseau. Mais par contre, c'est une innovation à peu de frais finalement, puisque c'est sur son réseau que les gens vont dépenser ces données.
Free, pour l'occasion, qui a communiqué sur la couverture de son réseau 4G, hein, qui a 50%.
Ça monte, ça progresse.
De la population, ils espèrent arriver à 60%. D'ici la fin de l'année, avec beaucoup d'avance sur leur calendrier prévu.
Exactement, ils sont toujours un petit peu en retard par rapport à leurs concurrents, mais ils rattrapent le retard et puis peut-être qu'à la fin de l'année, ils auront rattrapé les autres opérateurs.
Voilà, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va réagir la concurrence, hein, si un opérateur va, pour l'occasion...
Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais effectivement, il est possible qu'il y ait d'autres forfaits de ce type qui soient envisagés par, du coup, les concurrents.
Voilà, parce qu'à part SFR, qui a un forfait à 40 gigas, je crois, de data, chez Bouygues ou chez Orange, c'est maxi 5 gigas et... Donc on est loin, il y a quand même un gap assez important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un téléphone 4G, on consomme beaucoup d'internet mobile.
Comme on consomme de plus en plus de vidéos surtout.
Et le compteur tourne très très vite. Hein. Souvent on reçoit un petit message en vous disant vous avez consommé votre volume de données. Et alors là on se retrouve
après. On se retrouve en Edge.
Un truc escargot.
On se retrouve en 2003.
Ouais. Voilà, et là c'est pas terrible. On va maintenant parler d'Apple. Apple qui évidemment prépare sa conférence qui aura lieu dans quelques jours. C'est mercredi prochain.
Hein. Ouais.
Mercredi prochain donc à 10h à San Francisco et 19h heure française et on y sera effectivement, Eric Le Bourlou. Vous pourrez suivre cette conférence en direct à la fois sur 01net.com mais en vidéo sur 01net TV. On commentera toutes les annonces de Tim Cook durant cette soirée. Annonces qui vont être nombreuses, hein.
Oui.
Alors on va évidemment de nouveaux iPhones.
Voilà, nouveaux iPhones, une nouvelle Apple TV qui n'a pas été rafraîchie depuis longtemps. On s'attend à avoir des surprises. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Fontaine qui sera là-bas. Pourquoi pas de nouveaux iPads aussi, parce que c'est une grosse conférence et que peut-être qu'Apple va préférer cette fois ne pas séparer ses iPads du reste et donc présenter de nouveaux iPads à cette conférence.
Peut-être des annonces musique aussi.
Des annonces musique.
Puisque rappelons ils ont réservé une grande salle de concert pour cet événement. C'est une première, donc on peut imaginer peut-être qu'il y aura de la musique ou des choses comme ça. On verra bien.
Tout à fait. Et puis il y aura peut-être des annonces concernant la vidéo. On verra bien ce que Apple a en réserve là-dedans. Mais en tout cas, on sait que Apple prépare un service de streaming vidéo. Ils veulent arriver sur ce créneau-là, un peu comme ce que fait des gens comme Netflix ou Amazon.
Peu comme ce qu'ils ont fait avec la musique. Au départ, la musique c'était en téléchargement. Après, ils sont passés à de l'abonnement mensuel. Et puis en vidéo, ils ont déjà plein de choses en vidéo, hein. Ils ont des films, des séries,
exactement,
etc. qu'on peut télécharger. La logique voudrait qu'ils passent aussi en abonnement streaming,
exactement,
comme les autres.
Et un abonnement, un service de télé par internet en fait. Et effectivement, ce qui va dans ce sens, c'est un article de Variety, hein, qui est un grand journal américain sur les médias, qui l'indique effectivement que Apple, en tout cas, chercherait créer des contenus, en tout cas à financer des nouveaux contenus pour ce potentiel service, mmh, et aurait par exemple cherché à débaucher l'équipe de Top Gear, la fameuse émission anglaise,
oui, pour dont l'un des membres s'était fait virer parce qu'il avait agressé un producteur.
Donc en ce moment il cherchait un petit peu un repreneur, on va dire, pour cette émission, en tout cas pour sa personnalité. Et ça se serait pas fait, mais en tout cas ça montre que
c'est Amazon qui a rappelé
exactement.
C'est Jeff Bezos qui a signé un gros chèque, a-t-il dit.
Oui, je pense, ouais. Mais Apple aussi a des poches bien profondes, et donc effectivement Apple cherche en tout cas à produire du contenu pour sa propre plateforme de streaming qui devrait arriver peut-être l'année prochaine, peut-être qu'elle va être annoncée là, on ne sait pas pour l'instant, mais l'arrivée d'une nouvelle Apple TV avec de nouvelles fonctions laisse à penser que effectivement Apple est sur le coup.
Voilà, donc on peut imaginer que pour Apple, il est important aujourd'hui de produire du contenu spécifique, hein, comme House of Cards,
exactement,
pour Netflix.
C'est comme ça que ça marche en fait. Hein. Voilà. Si vous voulez que quelqu'un s'abonne à votre service, il faut des contenus
de qualité.
Voilà. Sinon, vous ne distinguez pas de la concurrence.
C'est vrai qu'Apple a des poches énormes dont ils peuvent investir quelques centaines de millions. Il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème. Donc cette conf à suivre. Donc on le disait sur Zeronet et Zeronet TV à partir de mercredi. Il y aura sans doute plein de news intéressantes. On parlait de services d'abonnement de télévision et de Netflix. Netflix, à qui est arrivé une mésaventure assez désagréable cette semaine.
Exactement, puisque Netflix a l'exclusivité de la diffusion de Breaking Bad, la fameuse série Breaking Bad, en 4K aux États-Unis. Alors on l'a pas en France sur Netflix, mais maintenant les gens.
Donc la 4K, c'est l'ultra haute définition.
Voilà.
On va dire c'est un peu le format de la télé de demain.
C'est
hein.
ça, c'est 4 fois la définition d'un écran HD d'aujourd'hui, un full HD d'aujourd'hui. Et en fait, malheureusement, cet épisode, c'est un premier épisode de Breaking Bad est arrivé donc sur les réseaux peer-to-peer, donc et a été piraté. Et ça, on pensait que c'était pas possible parce que évidemment Netflix protège ses contenus avec une technologie qui s'appelle HDCP. La dernière version de cette technologie était pour l'instant inviolée et réputée inviolable. Donc
avec des DRM, des choses qui empêchaient la copie, c'est-à-dire qu'on peut le voir sur sa télé.
On peut le voir sur la télé.
Moment où vous branchez un appareil pour enregistrer, ça marche plus.
Ça ne marche plus parce qu'il faut que toute la chaîne soit sécurisée pour pouvoir. Donc on ne peut pas a priori. Voilà, on ne peut pas récupérer un contenu en théorie. Sauf que voilà, ça, c'est, on a retrouvé sur internet ce fichier. Alors ça peut poser d'énormes problèmes à toute l'industrie parce que évidemment à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme comme la 4K, tout le monde essaye de protéger son contenu. Si les pirates ont déjà réussi à pirater un épisode sur Netflix, ça veut dire que le HDCP est peut-être potentiellement vulnérable et bientôt on se retrouvera peut-être avec plein de contenus 4K disponibles gratuitement sur internet. Alors ça va peut-être faire hurler les gens de l'industrie, mais ça pourrait par contre beaucoup plaire aux vendeurs de télévision qui pour l'instant se plaignent aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en ligne.
Enfin, cela dit, on murmure que un lecteur Blu-ray 4K pourra arriver dans les mois qui viennent,
hein, ouais,
et que les constructeurs se sont mis d'accord pour sortir en fait un lecteur Blu-ray que vous connaissez, sauf que celui-ci serait une mise à jour qui permettrait de lire des films en 4K. Ultra haute définition.
Ça fait.
Il était temps parce que ça fait un moment qu'on attend quand même ce standard.
Ouais.
Hein. Voilà, mais c'est vrai que si Netflix commence à être embêté par du piratage de contenu, son modèle économique peut être un peu remis en cause.
Exactement.
On va parler de montres connectées maintenant, Éric Le Bourlou, avec Samsung, puisque se déroule en ce moment à Berlin le grand salon dédié aux nouvelles technologies qui s'appelle l'IFA.
Ouais.
Et donc, à cette occasion, Samsung a dévoilé sa nouvelle montre connectée.
Oui, il dévoile une nouvelle montre connectée. Alors Samsung, ils ont été parmi les premiers à faire de la montre connectée. Ils en ont fait beaucoup. Et voilà, celle-là s'appelle la Gear S2. C'est un des produits un peu phares de l'IFA, hein, quand même. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une montre connectée qui reprend un nouvel écosystème, puisqu'on connaît l'Apple Watch, évidemment, celle d'Apple. On connaît les Android Wear, hein, celle qui fonctionne avec l'OS de Google. Et là, Samsung part dans son coin. Il avait déjà sorti une montre sous cette OS, mais il continue avec cette OS qui est un peu son petit bébé, hein, qui s'appelle Tizen, et qui donc est un autre écosystème pour les montres connectées, avec donc ses propres applications. Il faut que les développeurs développent des applications pour cet univers-là.
Et donc pour un univers qui est quand même assez petit.
Restreint, ouais, tout
voilà,
à fait.
C'est-à-dire que là, il n'y a que les montres.
Il n'y a que les montres, un téléphone
Samsung,
qui sont sortis
voilà.
Dans les pays émergents, mais il n'y a très peu de terminaux Tizen aujourd'hui. Donc évidemment, c'est un gros pari. Par contre, la montre en elle-même a un hardware plutôt attirant. C'est un bel objet qui a été bien fini, avec une interface qui est plutôt bien léchée. Donc on va voir comment il se débrouille avec cet engin.
Parce qu'en plus, je crois qu'elle ne marche qu'avec les téléphones Samsung.
Alors, je n'ai pas ce détail à vrai dire, mais normalement oui, puisque en vrai, il faut avoir un utilitaire compagnon. Donc il faut effectivement un téléphone Samsung compatible.
Qui soit compatible, bien évidemment. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on parle de compatibilité, et donc d'univers restreint. Puis d'un autre côté, on a Google qui a annoncé quelque chose qu'on avait déjà annoncé il y a quelques mois de cela. C'était lors du Mobile World Congress. Vous savez que les montres connectées Google tournent avec un système qui s'appelle Android Wear. Et ce système, eh bien, contre toute attente, va bientôt être disponible chez le diable en personne, chez le concurrent direct.
Exactement, puisque les montres Android Wear seront compatibles avec l'iPhone. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment le choix quand vous aviez un iPhone. Il fallait soit prendre une Apple Watch, éventuellement une Pebble aussi, mais d'abord c'était l'Apple Watch. Eh bien, Google a décidé autrement. Donc, les montres Android seront compatibles avec l'iPhone. Et c'est possiblement un vrai problème pour Apple, puisque les montres Android Wear sont moins chères, beaucoup plus variées. Il y a beaucoup plus de choix. Mmh. Et finalement, d'un point de vue des fonctions, sont à peu près, on va dire, similaires hein, à celles de l'Apple Watch. Et donc, effectivement, c'est un vrai pavé dans la mare, en tout cas pour embêter un petit peu Apple.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'Apple a validé hein, tout ça, puisque bien sûr, quand
exactement,
il faut une application qu'Apple valide pour que
exactement,
ça fonctionne. Donc malgré tout, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter. En fait,
exactement.
J'imagine, hein.
Mais comme ils ont déjà validé des applis concurrentes à la sienne, hein, puisque ils ont aussi validé celle de Pebble, par exemple. On voyait
même d'Alcatel, hein, puisqu'il y a une montre connectée à Alcatel.
Exactement, ou de Weezings aussi, par exemple. Ouais. On voit mal comment ils auraient pu refuser à Google la même chose.
Voilà, donc ça va peut-être redynamiser aussi ce marché de la montre connectée qui, à part avec l'Apple Watch, est un petit peu, on va dire, moribond. Hein.
Pour l'instant, ça ne décolle pas complètement, voilà, ça c'est sûr.
Exactement. Merci beaucoup, Éric Lebonlou. Journaliste, rédacteur en chef du pôle actu à 01net.com. L'atelier numérique n'est pas terminé sur BFM Business, vous restez là. Dans un instant, on retrouvera entre autres le crash test avec Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Le crash test d'Antoine dans un instant pour conclure cet atelier numérique sur BFM Business. On va parler d'ASV. Trois petites lettres qui vont appeler de bons souvenirs à tous ceux qui chattaient de manière effrénée sur le web. Au tout début des forums de discussion, hein, des chats, c'était il y a quelques années. Antoine va nous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver comme trace d'ASV sur les moteurs de recherche. Mais auparavant, c'est Lila Megrawa qu'on retrouve avec son alphabet du numérique. Et aujourd'hui, Lila, on va s'intéresser au buzz versus le bouche à oreille, Lila.
Oui, François. Alors, pour ce deuxième alphabet du numérique, parlons bzzz, bourdonnement, rumeur, bouche à oreille. Vous l'avez compris, on va parler de ce terme, ce mot quelque peu valise, qui relève presque de l'onomatopée, le buzz. Alors, le buzz, c'est un peu ce graal ultime du communicant. On dit créer du buzz, faire du buzz, laisser faire le buzz. On reviendra d'ailleurs sur cette expression si on a le temps. Ce mot a même sa propre discipline, le buzz marketing. Alors le buzz, c'est un peu devenu la cerise qu'on aimerait déposer sur tous les mets. La cerise est certes succulente, délicieuse, mais se mariera-t-elle avec le harin que je propose à la carte? Revenons à nos moutons étymologiques. En la matière, le buzz n'est pas vraiment le terme le plus palpitant du monde. C'est en fait un anglicisme qui signifie bourdonnement, brouhaha. On peut retrouver bzz comme onomatopée, notamment dans les bandes dessinées. Le bzz marque le vol, les battements d'ailes d'un insecte. Dans le jargon audiovisuel, le buzz, c'est un bruit de fond, un bourdonnement désagréable et gênant. Le buzz que nous connaissons, le buzz si cher au marketing, faire le buzz, consiste à lancer une rumeur sur Internet, générer un bruit médiatique, espérer la propagation d'un message, d'une idée de manière exponentielle et si possible sans dépenser beaucoup de copecs. Ce qu'induit d'ailleurs l'expression « laisser faire le buzz ». C'est bien connu, le buzz coule tout seul, il est organique, vous comprenez, il faut le laisser s'épancher. J'aimerais d'ailleurs partager une interprétation que je trouve assez rigolote de l'origine du mot buzz, de l'arrivée du mot buzz dans le marketing. C'est un certain Luc Muller, si vous voulez le retrouver, Viper82 sur Twitter. Il rappelle une définition du mot buzz. Alors, apparemment, buzz ferait aussi référence à une cigarette de cannabis, on pourrait dire ABC fume des buzz. Il va plus loin, il rappelle qu'en fait, l'une des pratiques les plus répandues dans la consommation de la drogue suscitée est la consommation partagée par un groupe, de sorte qu'on ferait tourner le buzz. Pour Luc Muller, il est clair que le mot utilisé dans le monde du marketing, buzz est issu de cette pratique. Je rappelle également qu'en 2010, le secrétaire d'État à la francophonie, à l'issue d'un concours qu'il avait organisé avec des étudiants et des lycéens, il avait proposé le mot « ramdam » pour remplacer celui de « buzz », ce qui était quelque peu à côté du sujet. Si on revenait à des mots qui ont du sens, en plus d'être joli à entendre et à dire, le français est une langue riche. Le bruit, la rumeur, le bouche à oreille. Et si plutôt que de parler, d'entamer la conversation à tout prix, parler dans et pour le vide, ne devrait-on pas plutôt parler d'écoute? Un vœu pieux, une qualité qui se perd. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
Merci beaucoup, Lila Megraoua. Lila, restez là, parce qu'on va parler maintenant d'ASV, avec notre crash test signé Antoine Cyr. L'ASV, alors moi, c'est vrai qu'au début, j'avais complètement oublié ce que c'était, Antoine. Et c'est pour ça que Lila reste avec nous, parce que c'est elle qui nous a dit ce que c'était.
Oui, alors, d'abord, je reviens d'une certaine manière sur l'alphabet, mais cette fois-ci avec des initiales, parce que, vous allez voir, il faut se méfier des initiales, des acronymes, tout ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
Bien sûr.
Et justement, ASV, ça peut vouloir dire énormément de choses. Par exemple, si vous êtes dans le monde de l'aéronautique, ASV, ça signifie Amboseli, qui est au Kenya, dans le district Kajiado, qui est dans la province de la vallée du Rift.
Ah oui.
Et alors là, les gens qui font des safaris, les gens qui voyagent, savent que cette fameuse vallée et ce fameux parc d'Amboseli, c'est tout simplement celui qui est au nord du majestueux Kilimandjaro.
Voilà. Ah oui, d'accord.
Donc, si vous avez la chance d'aller voyager jusqu'au Kilimandjaro, eh bien, vous allez atterrir sur un aérodrome, si vous atterrissez sur l'aéroport, c'est pas très bon. Vous allez atterrir sur un aérodrome dont
oui,
les...
Quoi, non, mais pourquoi on peut atterrir sur un aéroport?
Dont
il y
les
a pas de problème.
Oui, mais l'aéroport, c'est plutôt l'ensemble, quoi,
oui.
Incluant les bâtiments.
Oui, donc, d'accord, voilà. Oui. Sur la piste d'atterrissage, quoi.
Voilà. Donc, ça s'appelle ASV, Amboseli, c'est l'aérodrome ou l'aéroport d'ailleurs qui se trouve près du Kilimandjaro. Alors, l'ASV, c'est aussi l'association du scoutisme valaisan.
C'est très connu.
Très connu.
Ah, bien sûr.
C'est une association de scouts suisses.
Ah oui.
À qui on doit quand même, en 1913, la fondation de l'association des éclaireurs suisses. C'est parti de là, c'est parti du Valais. Puis la création de l'association des éclaireuses suisses en 1919.
Attention.
Hein, voilà. En 1923, la construction d'un chalet international du scoutisme. Mais là, c'était pas dans le Valais, c'était dans le canton de Berne. Voilà. Mais ne négligeons pas le scoutisme suisse. Alors, revenons quand même plus près de la culture Internet. ASV, ça veut dire âge, sexe, ville. Alors,
c'est ce que nous expliquait Lila.
Voilà. Alors, aujourd'hui, Âge, ASV, point d'interrogation, ça veut dire présentez-vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en discussion sur un forum, quand vous êtes dans n'importe quelle situation internet, ASV, point d'interrogation, entre geeks, ça veut dire présentez-vous.
C'est encore le cas, Lila ?
Enfin, dans les salons de discussion, je pense que finalement les sites de rencontres ont remplacé ces fameux salons de discussion.
Oui, donc là il n'y a plus lieu, de dire ASV.
Aujourd'hui.
Mais dans le langage geek, ça reste un truc. Quand deux geeks se rencontrent, ASV, point d'interrogation, ça présente-toi.
On dit même plus bonjour.
Voilà. Et donc c'était dans les salons de discussion.
Et d'ailleurs, ces salons de discussion n'existent presque plus finalement.
Mais oui. Caramel a disparu. Il y avait Yahoo Messenger.
Il y en avait plein comme ça. Ouais. Et en plus, ils étaient thématisés. Par exemple, pour tous ceux qui aimaient la voiture, c'était là-dedans. Ouais. Pour les rencontres aussi, bien sûr.
Mais parce qu'il y a des forums beaucoup plus spécialisés maintenant.
Oui,
par exemple, moi, sur l'automobile, je suis sur un forum de passionnés de courses de voitures anciennes. Si vous voulez, si vous savez pas qui a gagné la Targa Florio en 1934, c'est même pas la peine de vous pointer sur ce forum.
Non, vous vous faites huer.
Voilà. Bon, alors cette ASV, ça fait partie évidemment d'un grand nombre d'acronymes, de sigles qu'on retrouve dans les dictionnaires d'argot internet. Alors il y en a un certain nombre. Je vais quand même tester vos connaissances. Par exemple, est-ce que vous savez ce que veut dire CMFUBJ?
CMFUBJ?
Ouais.
Non.
Ouais. Ça veut dire ça me fait une belle jambe.
D'accord.
Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire AMHA?
AMHA.
Non, mais alors, moi en plus, je suis nul dans tous ces trucs-là. Je sais pas quoi.
À mon humble avis.
À
mon humble avis.
Et alors, savez-vous que c'est une traduction d'un terme d'argot anglais, américain, qui est IMHO et qui veut dire In My Humble Opinion? Donc le sigle a été inventé d'abord par les utilisateurs
qui a été francisé
américains
après.
Et il a été francisé ensuite.
Et sinon, FYI, for your information.
Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire OKLM?
OKLM.
OKLM.
Qu'est-ce que ça peut... Le K en plus, c'est pas facile là. Non, je sais pas.
Alors là, par contre, c'est vraiment du français. Ça veut dire au calme.
Oh, là c'est vache là parce que c'est plus les initiales.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un talc?
Talc avec un C ou un
K? Oui, et T A L C. C'est un topic à la con.
Un topic à la con. D'accord.
Sujet, voilà. Si vous aimez pas que la conversation se mette sur un truc, vous dites que c'est un talc.
D'accord. Ok.
Voilà. Et alors, est-ce que vous savez ce que veut dire XDR?
Ah, c'est exploser de rire.
Voilà,
c'est
exploser
ça,
de rire.
Oui. Il y a PTDR et puis
IDR.
Exactement, il y a PTDR aussi.
MDR, ça va, on rigole,
ça,
mais
c'est facile,
tranquille.
Oui. Voilà.
Alors PTDR, alors là, on est mais sous la table, quoi. On roule sous la table, tellement on rigole.
Alors, revenons à l'ASV quand même, parce qu'on a fait une longue digression.
Bien sûr.
Mais c'était une digression vers tous ces sigles Internet. Hein. Donc, ASV, c'est aussi l'auxiliaire spécialisé vétérinaire. C'est un métier qui consiste à assister un vétérinaire lors de chirurgie et de consultation. Et alors là, si vous allez sur le site de l'ONICEP, qui est l'organisme d'orientation sur les carrières, eh bien, on vous invite à devenir ASV, passionné d'animaux, devenez auxiliaire de santé vétérinaire pour répondre à votre désir d'exercer un métier passionnant auprès des animaux. On nous dit, avec plus de 65 millions d'animaux de compagnie en France, à mon époque, il y avait 30 millions d'amis, maintenant il y en a 65.
C'est vrai.
J'intègre un secteur en croissance qui embauche. Voilà. Et on vous invite aussi à découvrir les autres formations animalières, toiletteurs, animalerie et éducateurs canins. Voilà. L'ASV, c'est aussi l'allocation supplémentaire vieillesse, donc le plus tard possible. C'est aussi, là on revient dans le monde électronique, c'est l'anodic stripping voltammetry, qui est en français la voltampérométrie par redissolution anodique, qui est une technique électrochimique, ne m'en demandez pas plus. C'est aussi le Approved Scanning Vendors. Alors là, c'est assez intéressant, c'est le code de sécurité des protocoles, des infrastructures de données de cartes de crédit. Donc c'est quand même assez sérieux. Savez-vous aussi que ASV veut dire Attitude Supporting Violence Against Women. Donc ce sont les gens odieux qui, dans leurs propos et dans leurs attitudes, semblent être favorables à la violence envers les femmes. Donc là, évidemment, c'est
plus grave.
C'est grave. Donc là, si on vous dit, là, cette personne promeut les ASV,
c'est pas XDR,
c'est
pas bon, là.
Voilà, c'est pas XDR du tout.
Ouais.
Et puis alors, l'ASV, c'est l'Amicale Sportive Vauréenne.
Oui. Vous avez terminé sur le plus connu, sans doute.
Oui, en tout cas sur un des plus sympathiques. Alors là, celui-là, il est vraiment sympathique. C'est le club de rugby de Lavaur. Et le club de rugby de Lavaur, il est un peu comme les objets connectés auxquels vous venez de consacrer un livre, mon cher François.
Merci de le rappeler, mon cher Antoine.
C'est un sujet qui fait l'objet d'un livre, puisque sur le site, puisque bien sûr tout le monde a un site, et donc l'Amicale Sportive Vauréenne en a un, on nous dit que les éditions Priva ont choisi le club de Lavaur pour leur première saga d'une nouvelle collection « Une ville, un club ». Ce livre de 120 pages rappelle, au travers des textes de Michel Demoulin et des photos de Lydie Le Carpentier Thomas, que l'ASV, donc l'Amicale Sportive Vauréenne, occupe une place primordiale dans une cité qui a su préserver un véritable art de vivre. Le livre peut faire de la publicité, là je crois, étant donné le sujet d'intérêt général, sortira le 17 décembre et vous pouvez, sur le site de l'Amicale Sportive Vauréenne, avoir toutes les informations pour
d'accord.
le trouver. Voilà, donc quand on vous dit ASV, faites préciser quand même, parce que ça peut vouloir
ça peut dire pas mal de choses.
Pas mal de choses.
Très bien, merci Antoine pour ce crash test. Et c'est avec ce crash test que se termine cet atelier numérique sur BFM Business. Merci d'avoir été là. On se retrouve bien sûr samedi prochain, 16h-18h. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous tous.